Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, l'épisode qui nous est relaté dans l'Évangile est une énième controverse, un énième piège tendu à notre Seigneur. Comme d'habitude, il ne va pas l'éviter. Et en plus, il va élever la réponse à un degré parfaitement inouï qui nous sert encore aujourd'hui de mode de réflexion pour notre action. Pour vous faire en introduction juste un petit panel des forces en présence, en gros, ce sont les Hérodiens et les pharisiens. Il y a trois parties, si je veux caractériser un peu, de la gauche à la droite. C'est un anachronisme, mais c'est pour mieux comprendre. Il y a à gauche les Hérodiens, les collaborateurs, ceux qui pensent qu'il faut traiter avec l'Empire romain et donc qu'il faut payer l'impôt. Il y a au centre les pharisiens, qui sont ni pour ni contre, bien au contraire, c'est les centristes, mais qui veulent tout simplement la mort du Christ. Et puis il y a à droite les zélotes, les va-t-en-guerre, ceux qui veulent absolument la révolte. Ils l'obtiendront, vous le savez, en l'an 67, et c'est ce qui amènera la destruction du temple par l'empereur en l'an 70. Alors voilà, la question qui est posée au Seigneur est très simple, c'est oui ou c'est non. Vous le savez, c'est un jeu idiot. Enfin, quand c'est pour rire, ça va, mais quand c'est sérieux, c'est un jeu idiot, puisque quoi qu'il réponde, s'il suit ce qui lui est demandé, eh bien, il est condamnable. S'il répond qu'il faut payer l'impôt afin de satisfaire les Hérodiens, alors évidemment, les pharisiens pourront dire au peuple, voyez, ce n'est pas le Messie que nous attendons, ce n'est qu'un collaborateur des Romains. Et puis s'il répond non, les mêmes pharisiens pourront aller trouver Pilate, c'est ce qu'ils vont faire très bientôt, pour lui dire cet homme est un ennemi de l'empereur et cherche à fomenter des troubles dans l'Empire, prenez-nous-le donc et crucifiez-le, s'il vous plaît. Voyez donc, le piège est gros, mais il est important. Et je vous propose d'examiner tout simplement les deux parties de la réponse du Christ, car elles nous servent encore de base de réflexion. Mon plan sera donc rendre à César ce qui est à César, puis dans un deuxième temps, à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui appartient à César. Le Seigneur ne se laisse pas attraper, bien entendu. On lui pose une question avec toutes les circonvolutions convenues des gens malhonnêtes. Ça s'appelle la flatterie. On lui dit qu'il dit la vérité, on lui dit qu'il est juste et on lui dit qu'il est de Dieu. C'est magnifique, même les menteurs peuvent être prophètes et peuvent dire des choses vraies. Oui, il n'est pas question pour le Seigneur d'entrer dans ce débat, et avec une grande finesse, comme vous le savez, il va pas se prononcer, il va laisser les gens qui l'interrogent se prononcer, puisqu'il va leur demander « donnez-moi une pièce de l'impôt ». C'est-à-dire que le Seigneur lui-même n'en a pas sur lui, c'est ceux qui l'interrogent qui en ont sur eux. C'est dire qu'ils ont déjà la question, ils ont déjà accepté de collaborer, eux qui posent la question, puisque c'est eux qui ont la pièce dans la poche avec l'effigie de l'empereur et l'inscription de l'empereur. La question est donc déjà réglée, c'est eux. Et il va d'ailleurs leur demander pédagogiquement de qui est cette effigie, de qui est cette inscription. Et c'est eux qui vont répondre de l'empereur. Et oui, just fundamentum in re, la vraie justice se fonde sur la réalité des choses, c'est-à-dire que c'est beau d'avoir des idées, surtout, mais c'est à partir de la réalité des choses. Si vous travaillez avec l'argent d'un État, c'est que vous êtes dans cet État. Il n'y a pas de mystère. Bref, le Seigneur s'en sort en mettant dans l'embarras ceux qui l'interrogent. Mais il est plus important encore pour nous de méditer, bien entendu, la réponse « Rendez à César ce qui appartient à César ». De tous les temps, les chrétiens ont été de bons citoyens. Et oui, et de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, nous reconnaissons dans l'établissement de la société quelque chose qui est de l'ordre naturel. C'est-à-dire que nous ne voulons pas confondre le ciel et la terre, nous voulons les ordonner l'un à l'autre, mais nous ne les écrasons pas. Nous n'allons pas écraser la terre au prétexte que nous allons vers le ciel, et ici, Le Seigneur rejette avec force toute tentation d'établir l'appel divin comme une loi humaine. Vous le savez, c'est une avancée pour l'humanité extraordinaire que le Seigneur va faire là. Nous allons en tirer la théorie des deux glaives ou des deux trônes en fonction de l'Orient et de l'Occident, en les comprenant un peu différemment, qui veut qu'il y ait une autonomie de l'ordre naturel, politique, et que, par ailleurs, nous soyons appelés vers le ciel, c'est-à-dire que cet appel du ciel éclaire notre vie politique. Bien entendu, il va falloir penser une articulation, il ne s'agit pas d'une séparation. Il faut rejeter donc les deux erreurs qu'ici le Seigneur dénonce. Tout d'abord, toute tentative de hiérocratie, c'est-à-dire d'établir l'appel divin comme une loi de Dieu, ce n'est malheureusement pas, je pourrais vous dire, c'était dans les cités antiques et primitives, mais vous le savez, il y a une résurgence en notre temps d'une idée primitive et de la religion et du monde, et ça s'appelle l'islam, qui veut que la charia gouverne parfaitement, c'est-à-dire que l'appel divin des âmes gouverne les choses pratiques de ce monde. Alors il faut aussi rejeter une séparation qui voudrait qu'il n'y ait pas de lien entre notre ordre naturel et notre ordre surnaturel. C'est l'autre versant de l'erreur, car évidemment, il ne s'agit pas de vous couper en deux entre ce que vous faites de midi à 13h le dimanche et ce que vous faites le reste du temps. D'ailleurs, pour être venu à cette messe, vous avez été des citoyens, c'est-à-dire que vous avez emprunté des routes, pris des transports en commun ou votre voiture, vous êtes comporté comme un citoyen, comme un autre. Et donc, toute notre vie est compénétrée à la fois de notre engagement dans la cité, de notre participation de la cité, et de notre appel divin, notre participation à la cité sainte. L'une et l'autre sont liées, ce qui doit nous amener à ordonner l'un à l'autre, car Dieu est premier servi, le rappelle Jeanne d'Arc à ses accusateurs. Il nous faut donc, évidemment, ne pas donner à César ce qu'il demande, si ce qu'il demande est contraire à la loi de Dieu. Sans quoi, l'écrit déjà Saint Jean Chrysostome, vous ne payeriez pas le tribut à César, mais le tribut à Satan. Bien entendu, nous respectons la loi, nous respectons la société, mais nous nous autorisons à mettre en contradiction l'appel de la société avec l'appel de Dieu, s'il peut advenir que dans les lois des hommes, il y ait quelque chose qui soit contraire à la loi divine. Oui, nous devons préserver avant tout le but de notre vie. Nous ne sommes pas des moralistes intramondains, c'est-à-dire des gens qui pensent que le but de la vie s'arrête avec la vie. Nous pensons que la vie ne s'arrête pas, que nous allons jusqu'au ciel, et donc il ne faut pas barrer notre route vers le ciel. Il faut tenir compte dans ce monde de notre appel divin en lui laissant la possibilité de s'organiser politiquement, et c'est bon. Voilà la première partie de ce que je voulais soulever. Rendez à César ce qui appartient à César. C'est un appel de surcroît pour vous à travailler à l'œuvre de ce monde, à gouverner ce monde, à exercer votre responsabilité politique. Et ce n'est pas à moi, prêtre, ici surtout en prêchant, car je suis par ailleurs un citoyen, à défaut d'être un sujet, même si je l'espérais, mais je suis dans ce monde, moi, je suis un citoyen de la France, et donc ici, prêchant, je vous prêche la parole divine qui éclaire votre intelligence, mais qui vous laisse libre de votre action. Voilà pour cet appel à gouverner, qui est saint. Ce n'est pas parce que nous désirons le ciel que nous allons nous enfermer dans nos sacristies pour prier Dieu en attendant que ça se passe. En revanche, nous voulons rendre, bien entendu, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et ce faisant, notre Seigneur, en appelant son royaume, il va le faire durant toute sa vie terrestre. Il va refuser d'être roi. Il va refuser de faire les partages entre les gens. Il va bien leur dire que son royaume n'est pas de ce monde, comme il le dira jusqu'au bout à Pilate. « Mon royaume est un vrai royaume, mais il n'est pas temporel. » Alors, il s'agit ici de ne pas confondre le ciel et la terre, mais dans un autre sens, c'est-à-dire de penser que le ciel soit immanent, de penser que c'est à travers ce monde que Dieu se réalise vraiment. Dieu est déjà réalisé, il est l'être même. Ça, c'est une erreur antique, c'est l'erreur du paganisme antique que malheureusement, il semble aujourd'hui que nous voyons ressuscité. Alors, que puis-je vous dire, puisque moi qui ne dois vous parler que de votre appel divin, je peux quand même éclairer votre conscience. Car sur le chemin qui est le vôtre, de la terre, en allant vers le ciel, l'Église, cette bonne mère, a décidé de vous prévenir qu'il y a des options philosophiques, politiques, qui ne sont pas compatibles avec la foi chrétienne, c'est-à-dire avec votre entrée au ciel. Je vais tout simplement les énumérer, vous les connaissez, je l'espère. Il y a 5 doctrines politiques que l'Église a déclarées incompatibles essentiellement avec la foi chrétienne. Je ne les prends pas dans l'ordre où elles ont été dénoncées, mais vous le savez peut-être, c'est au 19e et au 20e siècle que nous avons concentré toutes les erreurs théologiques en la matière possible et que donc les condamnations nous sont venues. Tout d'abord, l'Église a condamné le fascisme. J'aimerais le dire avec force, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a qu'un seul État dans le monde, une seule autorité morale et une seule autorité politique qui ait condamné le fascisme, et c'est l'Église. En 1931, le pape Pie XI, dans Non abbiamo bisogno, a condamné le fascisme italien. En 1937, en mars 1937, sur la rédaction d'un certain Eugenio Pacelli, le futur Pie XII, ancien nonce en Allemagne, le pape Pie XI publie Mitbrennendes Org avec un souci brûlant, la seule encyclique écrite en allemand dans l'histoire de l'Église, pour condamner le nazisme, les seules autorités politiques et morales, je le répète, à avoir condamné le nazisme, c'est l'Église. Le pape Pie XI et son secrétaire d'État, le futur pape Pie XII. Ne vous laissez pas attraper par les bons sentiments des pseudo-défenseurs de la liberté qui ont dû entrer en résistance en 1947 et qui ont trouvé ensuite à redire au pape Pie XII en disant que finalement il n'avait rien dit. Eh bien, Chamberlain n'a rien dit non plus, la France n'a rien dit non plus, les États-Unis non plus, personne n'a rien dit sur le nazisme. Ne vous laissez pas avoir par une construction politique dégueulasse qui veut noyer l'Église et notamment le pape Pie XII. Revenons à une autre... C'est un sujet qui me tient à cœur. Revenons à une autre philosophie politique qui est intrinsèquement incompatible avec la foi chrétienne, c'est le marxisme. Le marxisme est un matérialisme qui empêche, qui barre par avance la voie du ciel. Avec les meilleurs arguments du monde, c'est pour que ce monde soit mieux réalisé. Je crois que 100 ans plus tard, nous sommes en mesure de dire que les magnifiques réalisations du marxisme qui ont déporté et tué plus de gens que toutes les autres idéologies du monde n'en ont jamais fait. Et d'ailleurs, ça continue parce qu'en Chine et au Vietnam, les chrétiens continuent, et pas seulement eux, d'être martyrs de cette idéologie mortifère et profondément en inadéquation avec l'homme, parce que l'homme a une dimension spirituelle et divine, quoi qu'on en dise, eh bien, cette position philosophique n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Je passerai assez rapidement sur la troisième, l'anarchie, l'anarchisme, qui a été condamné comme n'étant pas compatible avec la foi chrétienne, comme se voulant une destruction de toute règle. Or, nous voulons nous ordonner pour aller vers le ciel, car nous avons un but. En quelque sorte, si on est anarchiste honnête, parce qu'en général, quand on est anarchiste, on est plutôt marxiste, mais si on est vraiment un anarchiste honnête, on n'a aucun but dans la vie, et la destruction de tout me semble être difficilement un nirvana à espérer. La quatrième, position philosophique qui n'est pas possible si vous voulez rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est le laïcisme de la franc-maçonnerie. C'est l'idée tout à fait perverse qu'il faut séparer profondément la foi de la vie, qu'il faut réserver la foi encore par bonté d'âme à l'intérieur des églises, voire à l'intérieur des sacristies. voir à l'intérieur de votre chambre et de votre conscience, encore si vous en avez une, car vous savez qu'on n'est pas fan dans les états laïcs de la liberté et de la liberté de conscience. La tentative récente, et il faudra se battre encore pour supprimer la liberté de conscience et la clause de conscience des médecins, n'est pas gagnée. Bref, ce laïcisme qui rejette en fait toute religion comme étant quelque chose de privé et qui voudrait que dans la cité il n'y ait plus de religion est en fait une fausse religion. Vous le savez, ils me font beaucoup rire, ces francs-maçons qui dénoncent l'Église comme une secte obscure. Que sont les officines des sectes maçonniques? Je vous rappelle en passant qu'il n'est possible à aucun chrétien d'adhérer à une secte maçonnique, et c'est pas la peine de couper les cheveux en quatre en se disant il y a le Grand Orient, la Grande Loge de France, la Grande Loge Nouvelle, Ancienne, etc. Elles sont toutes interdites, elles sont complètement incompatibles avec la foi chrétienne, soit qu'elles professent des idées contraires à notre philosophie fondamentale sur l'homme et sa destinée universelle, soit qu'elles semblent plus compatibles, certaines jurent sur la Bible, mais elles ne sont pas compatibles non plus, car en organisant secrètement le gouvernement des choses, elles ne répondent pas de la liberté de l'homme. Dans la foi chrétienne, tout vous est donné dans le catéchisme et tout vous est dit dans la Bible. Bien sûr, vous pouvez étudier plus ou moins, mais on ne vous cache rien du but où on vous mène. C'est une pratique détestable de ne pas faire confiance à la liberté humaine. Si vous deviez ou connaissiez quelqu'un qui adhérait à une secte maçonnique, quelle qu'elle soit, rappelez-lui bien qu'il est excommunié ipso facto, laeté sententiae, et que pour revenir à la foi, il lui faudra demander la levée de cette excommunication. C'est possible, n'ayez pas peur. Cette année, j'en ai connu plusieurs qui sont revenus à la foi. Enfin, la dernière position philosophique qui n'est pas compatible avec la foi chrétienne, c'est celle qu'on appelait dans le temps le libéralisme philosophique, qu'on a eu un peu peur de confondre à cause du libéralisme politique ou économique, et que le pape Benoît XVI prenait soin de renommer en parlant de relativisme philosophique. Si vous adhérez à une philosophie politique qui pense que tout se vaut, c'est-à-dire à peu près celle de nos dirigeants aujourd'hui, eh bien, vous n'êtes pas compatible avec la foi chrétienne. J'en suis désolé. Je ne vais en prendre qu'un exemple. Je pourrais en prendre 1000. Si vous pensez, par exemple, qu'en matière de procréation humaine, on peut tout essayer parce que tout est possible, eh bien, vous êtes dans un parfait relativisme philosophique. Vous vous refusez à dire s'il y a quelque chose d'objectivement bon ou d'objectivement mauvais. Tout est possible, ce qui est possible est licite, ce qui est licite est bon, tout est bon, eh bien, c'est faux. J'ai malheureusement encore récemment rencontré quelqu'un d'extrêmement, je ne veux pas le citer parce qu'il est extrêmement honorable par ailleurs, quelqu'un d'important qui s'occupe de la commission des lois, et qui m'a dit, bien sûr, il y a la morale intangible, celle qui vient de Dieu, voilà, mais dans l'éthique, on fait un peu ce qu'on veut, on s'arrange. Mais quelle horreur! À quoi me sert cette morale qui ne va pas me faire agir? Il ne suffit pas de penser que de découper les gens en morceaux et les brûler, c'est mal. Il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que ça soit moral ou éthique, je m'en contrefiche, c'est mal et c'est mauvais. Alors j'aimerais qu'on puisse abandonner ce relativisme philosophique. Prononcez-vous, est-ce qu'il est bon, oui ou non, de construire une vie, de lui permettre d'advenir en prévoyant qu'il sera orphelin de père ou de mère? Eh bien moi, je pense que c'est pas bon. Alors, ne vous laissez pas avoir par ce relativisme qui semble sympathique et mou et doux, il ne l'est pas. Voilà, j'ai fait mon travail, je vous ai rappelé, ce ne sont pas des partis politiques que nous condamnons, ce sont des options philosophiques que vous devez rejeter à tout craint. L'appel qui est le vôtre, c'est de réaliser dans ce monde votre vie divine et humaine. La vie éternelle est commencée. Soyez certains qu'avec les directives du Christ transmises par l'Église, la tradition vivante de sa parole, vous pourrez choisir le bien, choisir de vivre heureux sur terre et dans l'autre monde. Ainsi soit-il.